Dominique, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as appris en presque une heure et demie de conférence. On a appris beaucoup de choses. Mais moi, je voudrais surtout te remercier pour avoir fait ce travail auquel on pensait quand l'année dernière on a fait une journée d'hommage à Georges Julien, d'aller fouiller dans nos archives. Alors nos archives, elles ne sont pas seulement les archives municipales, tu as été beaucoup plus loin que ça, tu as été voir la Bibliothèque nationale, tu as ramassé beaucoup d'informations sur notre histoire. Et au fond, dans notre association des amis, c'est vraiment une vocation qu'on se donne. Donc merci de l'avoir illustré, et de l'avoir illustré de façon très, très riche sur plusieurs mois de travail. Je vais vous donner la parole, parce qu'il nous reste pas trop de temps. Mais...
Je veux dire, juste faire un commentaire. J'ai oublié, mais parce que je suis resté sur ma chanson de chansonnier. Moi, ce qui m'a frappé, l'art religieux du fin 19e siècle, en général, n'a pas bonne presse. Là aussi, sans jeu de mots, puisque je crois que le pèlerin, c'est bonne presse. Mais il y a, tout compte fait, quand on regarde l'église de Saint-Antonin, il y a beaucoup de choses à l'intérieur qui méritent attention. Et non seulement mérite attention, mais mérite aussi qu'on les connaisse mieux et qu'on comprenne pourquoi c'est là. Il y a une logique à la fois religieuse, il y a une logique artistique, alors moi je suis toujours gêné parce que je suis retourné plusieurs fois, je vois des touristes parce que la porte est ouverte, donc c'est très accueillant, les touristes rentrent, ils font un tour. Ils regardent, éventuellement ils attachent un peu plus d'importance aux vitraux qui sont au fond, et ils repartent. Et on se dit, mais ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont compris ? À peu près rien. Alors moi je pense qu'il est, non pas de notre devoir, mais il est une responsabilité d'aider à mieux comprendre. Je voyais ces deux statues en plâtre, par exemple, je ne sais pas si elles ont de la valeur, le receveur, il doit mettre 20 francs pour une statue en plâtre, mais elles ont un sens. Et il faudrait vraiment arriver à guider la visite. Il n'y a quasiment pas de statue qui soit légendée. Alors, enfin, tout le monde va reconnaître la Sainte Vierge. Saint-Dominique ou Saint-Simon-Stock, c'est pas gagné. Donc, il y a les vitraux. Alors, les vitraux du fond, il y a une documentation faite par l'Office du tourisme. Les vitraux latéraux qui sont en hauteur, rien n'est dit sur ces vitraux. Moi, j'ai trouvé leur description avec une explication dans dans un texte qui doit dater de 1900 ou 1905. Qui n'est pas lié à l'inventaire. Ils sont décrits par le chanoine, je ne sais plus pas son nom, mais je dis, on faudrait faire connaître ça. Et donc, on n'est pas dans le médiéval, c'est sûr, on n'est pas dans le grand siècle, mais cette église, qui était décrite en 1900 comme une des plus belles du département, hein, peut-être que les critères ont changé, mais en tout cas, elle mériterait d'être mieux comprise, au moins. Et je lance un message, alors à la fois à ceux qui en sont propriétaires, donc je pense sur la municipalité, à ceux qui font vivre, donc c'est le clergé, puis à nous tous, parce que manifestement, il y a quelque chose d'important.
Merci. Questions, vos questions. Y a-t-il des questions?
Oui, vous avez parlé des conseils de fabrique. Vous pouvez expliquer un peu, parce que je crois que ça existe encore. Hein.
J'ai expliqué que pour comprendre tout ce qui est là-dedans, il faut vraiment réviser son vocabulaire. Le conseil de fabrique, c'est finalement un groupe de paroissiens laïcs qui était créé donc pour gérer effectivement les biens de la communauté. Donc le curé s'occupait évidemment du sacré, et le conseil de fabrique, c'est des paroissiens. Et globalement, si on n'y fait pas attention, en gros, l'association culturelle ou l'association diocésaine, ça pouvait ressembler à ça. Hein, c'était déjà des paroissiens engagés, mais qui prenaient à charge l'entretien, etc. Et qui, dans certains cas, aussi amenaient de l'argent pour acheter, pour enrichir le patrimoine de l'Église. Ça existe toujours, oui.
Autre question.
De quand date l'Église actuelle ? Vous dites 19e siècle,
oui.
Mais...
Alors, j'ai pas exactement. La construction a duré un certain temps, comme on dit, hein, dans l'artillerie. Hein. Je crois qu'elle a été, consacrée, si j'ai pas tout de mémoire, en 1868, non ? Pas quelque chose comme ça. Et la dernière grande œuvre, qui est le portail, lui, doit dater de 1901. Donc elle était longue à faire, hein, et il a fallu aussi démolir beaucoup de maisons tout autour. Enfin bon,
elle n'est pas beaucoup plus vieille que l'inventaire.
Non, elle n'est pas beaucoup. C'est pour ça qu'à l'époque, elle resplendissait. Les vitraux, d'ailleurs, les services de l'inventaire disent que les vitraux, en s'attaquant, ont perdu déjà un peu de couleur. C'est des vitraux quasiment artisanaux. Hein. Le vitrailler a travaillé presque de façon artisanale. Et donc, il avait des colorants qui, dans certains cas, ne sont pas toujours. Donc elle a duré longtemps. Il y a un document que je mettrai aussi en ligne parce que d'abord il est public et puis il y a eu une visite épiscopale en 1749, donc de l'évêque de Rodez, qui décrit à ce moment-là les églises qu'il visite, parce que les évêques avaient l'obligation, je ne sais pas s'ils l'ont toujours, de faire des tournées sur le terrain qu'ils ne faisaient jamais avant, et tout d'un coup l'évêque de Rodez vient et il décrit les églises. Elles sont, à part Saint-Antonin où il y a des habitants, elles sont dans un état catastrophique. Et puis en plus, il dit il y a 2000 communions à Saint-Antonin. Il y a 30% de, pas loin, mais un tiers des habitants de Saint-Antonin qui sont encore protestants. Puis ils se lamentent parce que les débits de boissons ne sont pas fermés pendant l'heure de la messe. Enfin bon, mais ça vaut le coup de le lire. Et c'est la Société historique du Tarn-et-Garonne qui a publié ce document qui est intéressant, qui donne une comparaison presque.
Dominique, moi j'ai une question que je voulais te poser sur plutôt la première partie de ton exposé, quand tu as mis en évidence le contexte des conflits auxquels les inventaires étaient censés apporter une réponse. Tu as bien mis en évidence le conflit entre l'Église catholique et la société moderne, et ça éclaire bien une partie des réactions que les inventaires ont suscitées. Mais c'est difficile de se dire que toutes ces réactions sont uniquement liés à ce contexte idéologique. Est-ce qu'il n'y a pas, tu y as fait allusion plusieurs fois dans ton exposé, des réactions dans les villages qui tiennent à ce qu'une partie de ces richesses, entre guillemets, que détenaient les églises des villages, était le résultat de donations des populations? Et si c'est le cas, je trouve que c'est intéressant de savoir ce qu'il en a été ici. Tu as dit qu'il y avait eu des donations, tu as dit aussi que parfois les paroissiens s'étaient mobilisés précisément parce qu'ils étaient à l'origine d'une partie des biens inventoriés. Et si c'est le cas, je trouve que c'est intéressant pour nous, je pense même à notre association qui est devenue un siècle plus tard ou presque une de ces structures qui a vocation à recevoir les donations que les familles veulent faire pour conserver la mémoire de leur passé. Et dans ce cas, on peut comprendre qu'une partie des réactions aux inventaires soit liée à ça et pas seulement au contexte idéologique. Alors, je voudrais avoir ton avis là-dessus.
Le cas le plus exemplaire, c'est effectivement le Bosc, puisque là, on a même la liste donnée, on a la liste des objets qui ont été donnés. Donc toutes les statues en plâtre, pardon, toutes les statues de l'époque sont des dons. Donc là, j'avais évoqué la lettre qui avait été opposée donc au receveur quand il arrivait. Mais dans les documents qui ont été annexés à ce que le receveur, lui, il prend les documents qu'on lui donne, il agrafe et il les joue au procès verbal. Son problème après, c'est pas lui de choisir, c'est l'État qui choisit. Et donc là, on avait vraiment une église qui avait été financée donc dans un but d'avoir son autonomie, j'allais dire, communale. On a vraiment une liste d'objets. Et alors, je sais pas si les gens en avaient le souvenir. C'est pas, je suis incapable de le dire si de 1849 à 1906, il a la mémoire. Mais c'est vrai que bon, les gens étaient attachés à leur patrimoine. Est-ce que certains ont soufflé sur le feu aussi pour expliquer peut-être que dans certains cas, on a par exemple la Fénérols, ça mériterait d'être dépouillé plus avant, mais on a une des je sais plus, c'est la chapelle, enfin, qui avait été donnée par le noble, je sais plus comment ça s'appelle, je sais pas son nom en tête, hein, donc du coup, il faisait valoir que là aussi, c'était un don qui avait été fait, donc c'était pas à l'État de s'en occuper, quoi. On a les logiques après commune par commune, c'est difficile à discerner, quoi. Il y avait, je pense, tous les financements comme d'habitude maintenant, la chasse aux subventions, parce que de toute façon, on était en concordat. Hein, donc il devait y avoir un financement d'État. Il y avait un ministre des cultes, non ?
J'avais entendu dire par quelqu'un qui connaissait,
pas montré celle-là.
Qui connaissait un peu l'histoire que certaines options ont été prises parce que la ville de Saint-Antonin, qui avait quand même 4 ou 5 000 habitants, n'était pas assez riche pour se payer certaines options. Est-ce que Saint-Antonin a participé ou pas ?
Je pense que tout le monde a mis la main. Il me semble qu'on a des listes de souscripteurs. Hein, il y a des souscriptions, effectivement. Il y a des dons, il y a des legs, il y a des souscripteurs. Il y a le jeu des finances. Et c'est aussi pour ça que des fois les travaux prennent longtemps. Hein, c'est qu'il faut réunir les crédits les uns après les autres. Hein, on fait par tranche. Hein. Oui, j'avais oublié de vous montrer cette gravure d'époque avec le jeu de mots sur brillant. Hein. Voilà. Oui.
C'est pas une question, c'est juste un renseignement et pas complet parce que j'ai pas tout en tête là. C'est pour répondre à votre question concernant la construction de l'église. Si vous allez sur Wikipédia, vous trouverez un article très intéressant sur Viollet-le-Duc. Et dans la vie de Viollet-le-Duc, il raconte notamment. L'auteur de cet article, qui a l'air d'être très sérieux, raconte que Viollet-le-Duc était tout jeune diplômé des Beaux-Arts, je crois, et a eu une mission particulière pour faire un espèce d'inventaire, en fait, d'un certain nombre d'églises ou de villes qui avaient besoin d'une église reconstruite. Et c'est dans ce cas qu'il est arrivé, je crois, à Saint-Antonin, et qu'il a remarqué, ayant remarqué, il était passionné, comme vous le savez sûrement, des techniques du Moyen-Âge, et il a remarqué la spécialité de Saint-Antonin avec cette pierre blanche, et son sang n'a fait qu'un tour, et il a tout fait depuis lors, pendant plusieurs années, pour arriver à reconstruire cette... Alors je pense que c'est un peu à son initiative qu'il y a eu cette sorte d'église à cet endroit-là, je dis cette sorte d'église, c'est-à-dire une église construite à la gothique.
Il voulait ramener l'église de Beaulieu, hein. Ouais.
Oui,
mais il a renoncé devant la complexité des choses.
Pas
ouais. Mais en 1750, quand l'évêque de Rodez décrit l'église de Saint-Antonin, il la trouve bien, en bon état. Hein. Donc c'est pas une ruine comme dans certaines autres. Hein. Mais après, bon, c'est vrai qu'un siècle, plus d'un siècle, ça peut... Ah oui, ça va. Oui. En conclusion, voilà les chiffres des inventaires. Donc vous avez le nombre de lignes et les sommes qu'ont repéré les receveurs, donc Escande et Jubert. Donc Saint-Antonin, 21 000 francs, 235 lignes, Le Bosc, 4 118, Sainte-Sabine, 3 002 et Cerdanac, 1470. Je me suis arrêté là, hein, parce que normalement on peut avoir quasiment toutes les églises l'une après les autres. Comment ? Le plus cher à Saint-Antonin, c'était les 6 000 francs de l'orgue. Puis après, il y a plein de trucs à 50 centimes. Hein.
Hein, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Parce qu'il se fait tard. C'est bon. On va peut-être arrêter, Dominique, parce qu'on a une règle de ne pas dépasser trop 7h30. Vous retrouverez, je pense, l'essentiel de cette conférence dans un article du bulletin de l'année prochaine. Et comme l'a dit Dominique aussi, d'ailleurs... On essaiera de le rendre accessible par Internet. Je rappelle que nos conférences sont enregistrées, que vous pourrez consulter ce qui s'est dit aujourd'hui sur le site Internet de notre association dans 2 ou 3 jours, comme pour les autres conférences. Et d'ailleurs, la radio locale CFM les reprend également chaque semaine. Donc vous pourrez aussi les consulter ainsi. Voilà, nous aurons dans la suite d'autres conférences et d'autres manifestations. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure sur cette exposition de photographes qui aura lieu à partir du 19 août, dans 2 semaines. Ça porte sur la même période que celle dont nous venons de parler, autour de 1900. Et curieusement, ni Amélie Galup ni Eugène Treutat n'ont vraiment consacré de temps et d'image à cet affrontement autour des inventaires et de la séparation de l'Église et de l'État. C'est un sujet à côté duquel ils sont passés. On n'a pas trouvé d'images qui racontent cela, mais je vous invite à consulter le catalogue qui est en vente d'ailleurs ici de cette future exposition. Merci à vous.